Oui, écoutez, cette indication se trouve dans le traité de Ketuvot et c'est un passage qui est un sujet important. Et il s'agit des différents serments que Dieu a fait jurer à Israël et aux nations lorsque l'exil avait commencé, lorsque l'exil devait commencer. Et un de ces serments est formulé ainsi. Et que Israël a juré, a promis de ne pas révéler le secret à Sod, les Ovdei Kochavim, aux idolâtres. C'est bien fermé le micro. Okay. Alors, je vous cite d'abord l'explication de Rashi. Qu'est-ce que c'est que ce secret? Et ensuite, nous l'approfondirons. Et nous verrons comment ça se relie à la question de tout à l'heure avec les problèmes de calendrier. Vous vous rappelez de cela? Et un des autres secrets, c'est de ne pas révéler la date de la fin de l'exil. C'est un sujet pour lui-même aussi. Ça signifie qu'elle était donc connue de ceux qui la connaissent. Effectivement, Rashi explique. La Nevi'im Shebaem, c'est un serment que les prophètes parmi le peuple d'Israël ont promis de ne pas révéler la date de la fin de l'exil. Ça signifie donc, je donnerai deux niveaux de lecture. S'il s'agit du premier exil, alors bien évidemment, la date était connue puisqu'elle a été dévoilée par les prophètes de ce temps-là, que ça devait durer 70 ans, c'est la date minimum, c'est une période de 120 ans d'ailleurs. Mais s'il s'agit du deuxième exil, ça signifie de la date de la fin de l'exil présent, qui a commencé avec Rome, et qui s'achève officiellement le Yom HaTzmaout de la première année de l'État d'Israël. Et ça signifie donc qu'il y aurait des prophètes parmi les clandestins, parmi les juifs pendant 2000 ans, qui connaissaient cette date et qui n'avaient pas la révéler. Alors cette discussion étant très postérieure au premier exil, concerne bien évidemment le deuxième exil. Et même si... Bon, pardon?
Donc, je ne peux pas utiliser, qui donne exactement le nombre d'années qui séparent, comment ça a été construit.
Oui, il y a aussi d'autres préférences. Bon, c'est-à-dire qu'une fois que c'est dévoilé, on le connaît, mais... Et alors, donc s'il s'agit d'un autre secret, la fin de l'exil, le secret dont on parle ici, c'est un autre. Alors Rachid dit, donne deux explications. Mais est-ce que je retrouve Rachid? Amrela Sodaibur, on a dit de cela qu'il s'agit du secret du calendrier Sodaibur, c'est-à-dire de ce principe que j'évoquais tout à l'heure, de Aibur. L'Aïvour, c'est-à-dire déclarer l'année enceinte lorsqu'elle aura, non pas 12 mois lunaires, mais 13 mois, de telle sorte que, cette fois en 19 ans, les rythmes des mois lunaires et des années solaires se recoïncident. C'est pas si schématique que cela, mais ceux qui ont étudié cette question de ça, disons, je schématise, recoïncident au bout de 19 ans. Et c'est pourquoi, primitivement, on observait l'apparition de la lune pour déclarer le mois ouvert, et jusqu'à Ravada au IIe siècle, et ensuite on a donné le calcul du calendrier perpétuel, comment les années doivent être définies à l'intérieur d'un cycle de 19 ans. Vous savez cela, dans un cycle de 19 ans, il y a 12 années de 12 mois lunaires et 7 années de 7 mois lunaires. Et ça s'appelle Sodaibu. Une année qui a 13 mois lunaires est appelée une année enceinte. Premièrement, signification que Rashi cite, Ve'amrela, et on dit aussi, Sod Tarmei HaTorah, le secret des significations de la Torah. Première lecture, des Tarmei HaTorah, ça veut dire des signes qu'on appelle les Taramim, sur lesquels on module le chant de cantillation de la Torah. Les Taramim de la Torah. Donc, ça veut dire. C'est effectivement ces signes de cantillation qui donnent la signification des versets. Et à la limite, nous avons l'expression « Taramei HaMitzvot », la signification des mitzvot. Vous voyez qu'on est en plein dans notre sujet. Alors, c'est interdit de le révéler au bruit. Top. Alors je vais prendre le premier sujet, si on a la première explication sur Daïbourg, si on a une résultante vers la deuxième, peut-être même rapidement, c'est ceci. Je vous ai indiqué ce midrash qui dit que le temps des nations, c'est le temps du soleil, et que le temps d'Israël, c'est le temps de la lune. Dans le calendrier de l'islam, c'est uniquement un calendrier lunaire qui est toujours en retard sur le temps du soleil. Dans le calendrier juif, hébreu, disons, alors c'est le temps de la lune en relation avec le temps du soleil. Et je vais vous décrire au niveau de l'image, mais c'est plus une image, bien évidemment, le fait que l'année solaire est enceinte de la lumière de la lune. Alors, on va décrypter cette comparaison, c'est-à-dire, que se passe-t-il dans les temps d'exil? Israël entre dans la clandestinité embryonnaire au sein des nations comme un embryon dans la matrice de sa mère. Et c'est le secret de l'année enceinte. L'année du soleil, les nations sont enceintes, si j'ose dire, d'Israël en exil comme un germe qui va embryonnaire, qui va un jour naître à la naissance et la sortie d'exil. Je n'ai pas expliqué ça, vous voyez. Je vais me demander pourquoi je l'explique. Eh bien, parce que le temps est arrivé, alors on peut expliquer, et je crois d'ailleurs que je vais essayer d'expliquer, et vous voyez, me pressent eux-mêmes. Alors, pourquoi c'est dangereux? Parce que c'est exactement cette argumentation des goyim, anti-juifs, que les juifs sont les parasites des nations. Tout simplement. Effectivement, que se passe-t-il? C'est-à-dire que l'exil des juifs, la diaspora des juifs chez les nations, c'est comme la semence du père dans le sein de la mère, de telle sorte qu'un enfant naît un jour. C'est bien clair. Et s'il s'agit de parasitisme, c'est le parasitisme merveilleux de l'enfant dans le sein de sa mère. Alors le problème, c'est de savoir si la mère est une mère ou si c'est une marâtre. Et je vous décris donc le moment de la sortie d'Égypte. Quand Israël est sorti d'Égypte, c'est comme un enfant qui sort du sein de sa mère. Seulement, cette mère était marâtre, elle ne voulait pas le laisser sortir, et d'ailleurs l'enfant se sentait bien là-bas, il ne voulait pas sortir. Vous avez bien compris. Alors quand le temps arrive de la naissance, c'est cette indication que l'année a cessé d'être enceinte et l'enfant est né, si Israël. Alors, vous comprenez tout ce qu'il y a dans ce texte. Et à quel point, effectivement, c'était dangereux d'expliquer ça au Goyim. Il y a un serment de ne pas expliquer ça. Mais maintenant que, d'une part, l'enfant est né, et c'est irréversible, tout le monde se jette dessus pour essayer d'annuler, mais vous retrouvez l'histoire de l'engendrement d'Israël, l'histoire de Moïse. À sa naissance, un berceau en anglais sur les rives du Nil, c'est tout à fait ce que nous vivons, et le fait que la fille du pharaon va servir de mère adoptive à Moïse, et toutes ces choses s'organisent autour. Et alors, de notre temps, il semble bien que certains des Goïms se pressentent. Il s'agit d'un, je ne pourrais pas citer la phrase de l'évangile, mais ce serait plus précis encore, le sel de la terre. Il s'agit de la semence du monde. Et qu'effectivement, Israël porte le salut du monde. Je vais l'expliquer autrement. C'est que la mère ne laisse pas naître cet enfant parce qu'elle craint de mourir en couche et d'être renvoyée à la préhistoire. Comme l'Égypte ancienne a été renvoyée à la préhistoire à la sortie d'Égypte, comme la Perse de l'Antiquité a été renvoyée à la préhistoire au moment de la sortie du deuxième exil, quelles que soient les rémanences et les permanences, et puis comme la Grèce a été renvoyée à la préhistoire à partir du temps des Maccabées, et comme maintenant Rome est en train d'être renvoyée à la préhistoire par la sortie contemporaine d'Israël de l'Europe. Vous voyez pourquoi je ne voulais pas que ce soit ouvert. Hein. Et le côté positif du point de vue d'Israël, c'est effectivement que cet embryon, et vous savez qu'en hébreu, la racine aïver, aïn betrej qui veut dire hébreu, dans le mot de roba qui veut dire embryon. Hein. L'hébreu, c'est l'être embryonnaire du monde. Eh bien, c'est qu'effectivement, l'enfant branché sur le sein de sa mère recueille les valeurs de l'identité maternelle, l'humanité, de telle sorte de les récapituler à la naissance dans la vie du monde à venir. Est-ce que c'est clair? Bon. C'est ce drame-là qui se joue dans l'histoire Israël diaspora. Oui. Alors, j'ai un peu... voilà, ça, il ne fallait pas rêver. Tant que ce n'était pas le temps. Ça s'appelle Soda Ebook, tout simplement. Et là, je pousserai un peu l'image, elle est terrible d'ailleurs, en ce qui concerne la situation de la diaspora. Et vous savez que lorsqu'il y a un embryon dans le sein de sa mère, il est accompagné d'un placenta, et qu'au moment de la naissance, et bien, le placenta, on l'enterre. Alors vous avez des juifs placentaires. Ils viennent en Israël pour nous demander une place en terre. Et bon, mais ça me fait plaisir de vous voir rire, parce que vous voyez à quel point c'est tragique. Hein? À quel point c'est tragique. Il y a ici le mystère des cellules qui ont préféré être l'embryon qui va naître et celles qui ont préféré être le placenta nourricier. Hein? La Madrid. La collecte de fonds pour Israël. Je vais m'en occuper. Donc, alors ça, c'est Sodaïgo. Et puis, Sodeta Armetora, je vous dirai très brièvement, de ne pas donner la vraie raison des commandements. Alors la vraie raison est nationale. Alors on s'est arrangé pour leur dire, c'est une raison religieuse. Alors comme les goyim sont des humanistes, ah bon, liberté de croyance. Vous avez votre religion, nous avons dans le même état, la même cité goy. Okay? Alors que la raison des commandements, une raison nationale. Séparer la nation d'Israël des autres. Est-ce que c'est clair? Alors on a eu cette stratégie du confessionnalisme pour pouvoir vivre chez les goyim. On n'aurait jamais dit la vérité. Nous sommes une nation différente. Et que les mitzvot de la Torah, c'est pour que nous soyons une nation. Qui a sa religion, mais c'est en tant que nation. C'est clair? Voilà, mais j'espère que je vous ai rassuré.
C'est un peu dramatique parce que les cellules du placenta ne seront jamais celles de l'embryon.
Bon, mais c'était une image. C'est une choix. Il y a encore la placentaire. Non, je crois que ça rend compte de ce mystère. Pourquoi des mêmes familles, des mêmes tribus, des mêmes communautés, un tel est là et un tel est là? Pourquoi au moment de la conception, telle cellule va être l'enfant et telle cellule va être le placenta? Okay? Un espèce de jumeau avorté. Et jamais trop tard. Alors je vais vous rassurer. Il y a dans la diaspora énormément de membres d'Israël à l'étranger. Vous en faites partie. Bon, mais les obstacles sont les obstacles, mais régulariser, il faut régulariser. Parce que les goïms veulent y voir clair. si j'ose dire.
Par exemple, ils disent toujours, vous êtes encore en guerre.
Oh,
ils nous placent tout de suite dans l'autre camp.
Hein. Oui. Alors, comme je dis souvent, vous savez, les Français, ça existe, c'est très cohérent, mais c'est pas nous. Alors, il faut se réveiller de ce fantasme, les Juifs, ils se prennent pour des Français. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on a quelques moments. Vous savez que je suis d'origine algérienne, okay? Je connais beaucoup de Juifs algériens qui vivent en France. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas être membres d'un pays arabe. Okay? La vérité, il faut la dire. Alors, mais ils se prennent pour des Français. Alors, pourquoi Français oui, Arabe pas? C'est du racisme. Hein? Je vous ai inversé la casserole. Okay? Et ils se prétendent humanistes. C'est des racistes. Alors, Juif arabe, pas. Et Juif algérien, c'est Juif arabe. Et Juif français, oui, c'est du racisme. Anti-arabes. Et vous les voyez en tête des manifestations pro-arabes et anti-israéliennes. C'est le monde à l'envers. Mais est-ce que c'est clair ce que je dis? Attendez, je voulais ajouter encore une chose. C'est que. J'espère que c'était clair ce que je vous ai dit. Ça s'étudie. La raison des mitzvot comme elles sont, dans sa signification religieuse même, c'est une raison nationale. Vous ne ferez pas comme en Égypte et vous ne ferez pas comme ceux qui habitaient la terre de Canaan. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Et vous serez séparés. Les mitzvot nous séparent des nations. Alors ça, on l'a jamais... Je me rappelle en Afrique du Nord, dans l'islam, la réaction des Arabes croyants, c'était de dire, je le disais en arabe, c'est très précis d'ailleurs, mais vous avez vos choses, nous avons nos choses. Il s'agissait des choses religieuses. Alors vous avez vos choses, nous avons nos choses. Mais une espèce de consensus, mais ça ne trompait personne, ni eux ni nous. Enfin, nous sommes deux peuples différents. Et c'est parce que nous sommes deux peuples différents que nous aurons une religion différente. Mais l'idée d'un même peuple avec deux religions, où ça sort, le peuple français, et ça peut être ou juif ou chrétien, alors que juif c'est une nation. Voilà, c'est ça que je comprends. Et comme je dis souvent, le judaïsme, c'est pas une religion pour français, c'est une religion pour juifs. Même citoyens français, c'est des juifs. Et confusion du langage, vous voyez à quel point je suis, c'est pas du chauvinisme, mais je suis heureux que Dieu m'ait fait naître dans la culture française et par exemple dans la culture, je sais pas, allemande. Et c'est pas du chauvinisme français. Mais me prendre pour ça pour un français, il faut être juif pour inventer des choses pareilles. Et je disais une fois à un prêtre, nous avons reçu il y a quelque temps à Jérusalem une délégation de l'épiscopat français et belge d'ailleurs, qui découvrait comme ça les juifs israéliens, les hébreux. Alors ça s'est détendu au bout de... C'était une soirée de vendredi soir d'ailleurs à Mayanote. Et puis on avait abordé très familièrement, fallait voir à quel respect ils ont fait le Birkat Hamazon. Okay, top. Et alors, en général c'était des hébraïsants d'ailleurs, spécialistes des affaires juives. Et bien, je disais, vous voyez que quand on a une relation entre un Israélien et un Belge ou un Français, ben c'est clair quand même. C'est un Hébreu qui parle à un Gaulois. C'est très clair. Mais en France, on était gênés aux entournures, parce que le dialogue est faussé. Vous avez d'un côté un Juif qui se prend pour un Français, et de l'autre côté un Français qui se prend pour un Juif, ça s'appelle un chrétien. Alors imaginez le dialogue dessous. Tout à l'envers. Est-ce que c'est clair? C'est impur. Alors, ce qui s'est passé, subitement, c'est une mutation d'identité. Et il se révèle qu'elle est nationale. Bien, c'est ça que vous comprenez. Bien, ouais, vous avez la parole.
Vous avez mentionné, là, dans le texte Rashi, le rapport avec les signes de compilation.
Oui.
Est-il possible de expliciter un peu
plus? Et voilà, d'abord, la signification du verset dépend des consonnes, des lettres, des voyelles, pardon, des lettres, des voyelles, et des signes de cantillation, plus une quatrième sorte de signe qu'on appelle les tagines, les petites couronnes qu'il y a sur certaines lettres. Donc, enfin, comprendre le verset si on ne le lit pas avec sa cantillation. Qu'est-ce que la Massora veut dire? Et en plus, le secret de la signification de ce qu'elle demande, c'est dans ces signes-là. On les étudie dans la Kabbale. Alors, on les étudie d'abord dans les écoles de chantre, les cantors, là, comment on chante. Mais vous avez remarqué à quel point il y a un scrupule traditionnel qu'il faut chanter exactement. Si le chazam se trompe d'une demi-virgule, il y a une émeute. Okay? Alors qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit, mais au moins, ça de garder. Pourquoi? Parce que le sens change si on a changé la tonalité, l'accentuation. Vous savez, l'accent, c'est une chose terrible, surtout à Sion. L'accent tue à Sion. Bien. Alors,
voilà, la dernière.
Le dernier mot, Ican.
Je crois qu'un des problèmes qui se passe, c'est que par rapport à la France, les Juifs ont une telle somme de reconnaissance par rapport à l'histoire plus ou moins contemporaine, que ça se transforme en fidélité nationale.
Oui, bon, mais toutes les aberrations sont possibles. Mais il y a des vraies vertus, c'est la vertu de reconnaissance. Il y a une aberration, c'est se prendre pour l'autre. Ça se traite en psychiatrie, ça. C'est pas plus compliqué que ça. Bien, alors Shabbat Shalom entre juifs français. Alors à dimanche, 3h.